Le monde de la perception, c'est-à-dire celui qui nous est révélé par nos sens et par l'usage de la vie, semble à première vue le mieux connu de nous, puisqu'il n'est pas besoin d'instruments ni de calculs pour y accéder, qu'il nous suffit en apparence d'ouvrir les yeux et de nous laisser vivre pour y pénétrer. Pourtant, ce n'est là qu'une fausse apparence. Je voudrais montrer dans ces causeries qu'il est dans une large mesure ignoré de nous, tant que nous demeurons dans l'attitude pratique ou utilitaire, qu'il a fallu beaucoup de temps, d'efforts et de culture pour le mettre à nu, et que c'est un des mérites de l'art et de la pensée moderne, j'entends par là l'art et la pensée depuis 50 ou 70 ans, de nous faire redécouvrir ce monde où nous vivons, mais que nous sommes toujours tentés d'oublier. Ceci est particulièrement vrai en France. C'est un trait non seulement des philosophies françaises, mais encore de ce qu'on appelle un peu vaguement l'esprit français, de reconnaître à la science et aux connaissances scientifiques une valeur telle que toute notre expérience vécue du monde se trouve d'un seul coup dévalorisée. Si je veux savoir ce que c'est que la lumière, n'est-ce pas au physicien que je dois m'adresser? N'est-ce pas lui qui me dira si la lumière est, comme on l'a pensé un temps, un bombardement de particules incandescentes, ou comme on l'a cru aussi, une vibration de l'éther, ou enfin, comme l'admet une théorie plus récente, un phénomène assimilable aux oscillations électromagnétiques? À quoi servirait-il ici de consulter nos sens, de nous attarder à ce que notre perception nous apprend des couleurs, des reflets et des choses qui les portent, puisque de toute évidence ce ne sont là que des apparences, et que seul le savoir méthodique du savant, ses mesures, ses expériences, peuvent nous faire sortir des illusions où vivent nos sens et nous faire accéder à la vraie nature des choses? Le progrès du savoir n'a-t-il pas consisté à oublier ce que nous disent les sens naïvement consultés, et qui n'a pas de place dans un tableau vrai du monde? Le monde vrai, dira le savant, ce ne sont pas ces lumières, ces couleurs, ce spectacle de chair que me donnent mes yeux, ce sont les ondes et les corpuscules dont la science me parle et qu'elle retrouve derrière ces fantasmes sensibles. Descartes disait même que le seul examen des choses sensibles, sans recourir aux résultats des recherches savantes, me permet de découvrir l'imposture de mes sens et m'apprend à ne me fier qu'à l'intelligence. Je dis par exemple que je vois un morceau de cire. Mais qu'est-ce donc au juste que cette cire? Assurément, ce n'est ni la couleur blanchâtre, ni l'odeur de fleurs qu'elle a peut-être encore gardée, ni cette mollesse que mon doigt sent, ni ce bruit mat que fait la cire quand je laisse tomber. Rien de tout cela n'est constitutif de la cire, puisqu'elle peut perdre toutes ses qualités sans cesser d'exister. Par exemple, si je la fais fondre et qu'elle se transforme en un liquide incolore, sans odeur appréciable et qui ne résiste plus à mon doigt. Je dis cependant que la même cire est encore là. Comment faut-il donc l'entendre? Ce qui demeure, en dépit du changement d'état, ce n'est qu'un fragment de matière sans qualité, et à la limite une certaine puissance d'occuper de l'espace, de recevoir différentes formes, sans que ni l'espace occupé ni la forme reçue soient aucunement déterminés. Voilà le noyau réel et permanent de la cire. Or, il est manifeste que cette réalité de la cire ne se révèle pas au sens tout seul, car eux m'offrent toujours des objets d'une grandeur et d'une forme déterminées. La vraie cire, dit Descartes, ne se voit donc pas par les yeux. On ne peut que la concevoir par l'intelligence. Quand je crois voir la cire de mes yeux, je ne fais que penser à travers les qualités qui tombent sous les sens, la cire toute nue et sans qualité qui est leur source commune. Pour Descartes donc, et cette idée est demeurée longtemps toute puissante dans la tradition philosophique française, la perception n'est qu'un commencement de science encore confuse. Le rapport de la perception à la science est celui de l'apparence à la réalité. Notre dignité est de nous en remettre à l'intelligence qui nous découvrira seule la vérité du monde. Quand j'ai dit tout à l'heure que la pensée et l'art moderne réhabilitent la perception et le monde perçu, je n'ai naturellement pas voulu dire qu'il niait la valeur de la science, soit comme instrument de développement technique, soit comme école d'exactitude et de vérité. La science a été et reste le domaine où il faut apprendre ce que c'est qu'une vérification, ce que c'est qu'une recherche scrupuleuse, ce que c'est que la critique de soi-même et des préjugés propres. Et il était bon qu'on attendît tout d'elle, dans un temps où elle n'existait pas encore. Mais la question que la pensée moderne pose à son égard n'est pas destinée à lui contester l'existence ou à lui fermer aucun domaine. Il s'agit de savoir si la science offre ou offrira une représentation du monde qui soit complète, qui se suffise, qui se ferme en quelque sorte sur elle-même, de telle manière que nous n'ayons plus aucune question valable à nous poser au-delà. Il ne s'agit pas de nier ou de limiter la science, il s'agit de savoir si elle a le droit de nier ou d'exclure, comme illusoire, toutes les recherches qui ne procèdent pas comme elle par mesure, comparaison, et ne se concluent pas par des lois telles que celles de la physique classique. Non seulement cette question-là ne marque aucune hostilité à l'égard de la science, mais encore, c'est la science elle-même, dans ses développements les plus récents, qui nous oblige à la poser et nous invite à y répondre négativement. Car, dès la fin du XIXe siècle, les savants se sont habitués à considérer leurs lois et leurs théories non plus comme l'image exacte de ce qui se passe dans la nature, mais comme des schémas toujours plus simples que l'événement naturel, destinés à être corrigés par une recherche plus précise, en un mot comme des connaissances approchées. Les faits que l'expérience nous propose sont soumis par la science à une analyse dont on ne peut pas espérer qu'elle soit jamais achevée, puisqu'il n'y a pas de limite à l'observation, qu'on peut toujours l'imaginer plus complète ou exacte qu'elle n'est à un moment donné. Le concret, le sensible, assigne à la science la tâche d'une élucidation interminable, et il résulte de là qu'on ne peut le considérer à la manière classique comme une simple apparence destinée à être surmontée par l'intelligence scientifique. Le fait perçu, et d'une manière générale les événements de l'histoire du monde, ne peuvent être déduits d'un certain nombre de lois qui composeraient le visage permanent de l'univers. C'est inversement la loi qui est une expression approchée de l'événement physique et en laisse subsister l'opacité. Le savant d'aujourd'hui n'a plus, comme le savant de la période classique, l'illusion d'accéder au cœur des choses, à l'objet même. Sur ce point, la physique de la relativité confirme que l'objectivité absolue et dernière est un rêve. Elle nous montre en effet chaque observation strictement liée à la position de l'observateur, inséparable de sa situation, et elle rejette l'idée d'un observateur absolu. Nous ne pouvons pas nous flatter, dans la science, de parvenir, par l'exercice d'une intelligence pure et non située, à un objet pur de toute trace humaine et tel que Dieu le verrait. Ceci n'ôte rien à la nécessité de la recherche scientifique, et ne combat que le dogmatisme d'une science qui se prendrait pour savoir absolu et total. Ceci rend simplement justice à tous les éléments de l'expérience humaine et en particulier à notre perception sensible. Pendant que la science et la philosophie des sciences ouvraient ainsi la porte à une exploration du monde perçu, il se trouve que la peinture, la poésie et la philosophie entraient résolument dans le domaine qui leur était ainsi reconnu et nous donnaient des choses, de l'espace, des animaux et même de l'homme vu du dehors tel qu'il apparaît dans le champ de notre perception, une vision très neuve et très caractéristique de notre temps. La science classique est fondée sur une distinction claire de l'espace et du monde physique. L'espace, c'est le milieu homogène où les choses sont distribuées selon trois dimensions et où elles conservent leur identité en dépit de tous les changements de lieu. Il y a bien des cas où, pour avoir déplacé un objet, on voit ses propriétés changer, comme par exemple le poids si l'on transporte l'objet du pôle à l'équateur, ou même la forme si l'augmentation de température déforme le solide. Mais justement, ces changements de propriété ne sont pas imputables au déplacement lui-même. L'espace est le même au pôle et à l'équateur. Ce sont les conditions physiques de température qui varient ici et là. Le domaine de la géométrie reste rigoureusement distinct de celui de la physique. La forme et le contenu du monde ne se mêlent pas. Les propriétés géométriques de l'objet resteraient les mêmes au cours de son déplacement, n'étaient les conditions physiques variables auxquelles il se trouve soumis. Tel était le présupposé de la science classique. Or, tout change quand, avec les géométries dites non euclidiennes, on en vient à concevoir comme une courbure propre à l'espace, une altération des choses du seul fait de leur déplacement. Une hétérogénéité des parties de l'espace et de ses dimensions qui ne sont plus substituables l'une à l'autre et affectent les corps qui s'y déplacent de certains changements. Au lieu d'un monde où la part de l'identique et celle du changeant sont strictement délimitées et rapportées à des principes différents, nous avons alors un monde où les objets ne sauraient se trouver avec eux-mêmes dans une identité absolue, où forme et contenu sont comme brouillés et mêlés, et qui enfin n'offre plus cette armature rigide que lui fournissait l'espace homogène d'Euclide. Il devient impossible de distinguer rigoureusement l'espace et les choses dans l'espace. La pure idée de l'espace est le spectacle concret que nous donnent nos sens. Or, les recherches de la peinture moderne concordent curieusement avec celles de la science. L'enseignement classique en peinture distinguait le dessin et la couleur. On dessine le schéma spatial de l'objet, puis on le remplit de couleurs. Cézanne, au contraire, dit « À mesure qu'on peint, on dessine ». Voulant dire que ni dans le monde perçu, ni dans le tableau qu'il exprime, le contour et la forme de l'objet ne sont strictement distincts de la cessation ou de l'altération des couleurs, de la modulation colorée qui doit tout contenir, forme, couleur propre, physionomie de l'objet, rapport de l'objet aux objets voisins. Cézanne veut engendrer le contour et la forme des objets comme la nature les engendre sous nos yeux, par l'arrangement des couleurs, et de là vient que la pomme qu'il peint, par exemple, étudiée avec une patience infinie dans sa texture colorée, finit par se gonfler, par éclater hors des limites que le sage dessin lui imposerait. Dans cet effort pour retrouver le monde tel que nous le saisissons dans l'expérience vécue, toutes les précautions de l'art classique volent en éclats. L'enseignement classique de la peinture est fondé, par exemple, sur la perspective, c'est-à-dire que le peintre, en présence d'un paysage, par exemple, décidait de ne reporter sur sa toile qu'une représentation toute conventionnelle de ce qu'il voit. Il voit l'arbre près de lui, puis il fixe son regard plus loin, sur la route, puis enfin, il le porte à l'horizon, et évidemment, selon le point qu'il fixe, les dimensions apparentes des autres objets sont chaque fois modifiées. Sur sa toile, il s'arrangera pour ne faire figurer qu'un compromis entre ses diverses visions. Il s'efforcera de trouver un commun dénominateur à toutes ses perceptions en attribuant à chaque objet, non pas la taille et les couleurs et l'aspect qu'il présente quand le peintre le fixe, mais une taille et un aspect conventionnels, la taille et l'aspect qui s'offriraient à un regard fixé sur la ligne d'horizon. Les paysages ainsi peints ont donc l'aspect paisible, décent, respectueux, qui leur vient de ce qu'ils sont dominés par un regard fixé à l'infini. Ils sont à distance. Le spectateur n'est pas compromis avec eux. Ils sont, pour ainsi dire, de bonne compagnie, et le regard glisse avec aisance sur un paysage sans aspérité qui n'oppose rien à son aisance souveraine. Mais ce n'est pas ainsi que le monde se présente à nous dans le contact avec lui que nous donne la perception. À chaque moment, pendant que notre regard voyage à travers le spectacle, nous sommes assujettis à un certain point de vue. Et ces instantanés successifs, pour une partie donnée du paysage, ne sont pas superposables. Le peintre n'a réussi à dominer cette série de visions et à en tirer un seul paysage éternel qu'à condition d'interrompre le mode naturel de vision. Souvent, il ferme un œil, mesure avec son crayon la grandeur apparente d'un détail, qu'il modifie par ce procédé, et les soumettant tous à cette vision analytique, construit ainsi sur sa toile une représentation du paysage qui ne correspond à aucune des visions libres, en domine le déroulement mouvementé, mais aussi en supprime la vibration et la vie. Si beaucoup de peintres depuis Cézanne ont refusé de se plier à la loi de la perspective géométrique, c'est qu'ils voulaient ressaisir et rendre la naissance même du paysage sous nos yeux, c'est qu'ils ne se contentaient pas d'un compte-rendu analytique et voulaient rejoindre le style même de l'expérience perceptive. Les différentes parties de leur tableau sont donc vues de points de vue différents, donnant aux spectateurs inattentifs l'impression d'erreur de perspective, mais donnant à ceux qui regardent attentivement le sentiment d'un monde où jamais deux objets ne sont vus simultanément, où entre des parties de l'espace s'interpose toujours la durée nécessaire pour porter notre regard de l'une à l'autre, où l'être donc n'est pas donné, mais apparaît ou transparaît à travers le temps. L'espace, donc, n'est plus ce milieu des choses simultanées que pourrait dominer un observateur absolu, également proche d'elles toutes, sans point de vue, sans corps, sans situation spatiale, pure intelligence en somme. L'espace de la peinture moderne, disait dernièrement Jean Paulhan, c'est l'espace sensible au cœur, où nous sommes situés nous aussi, proches de nous, organiquement liés avec nous. Il se peut, poursuivait Jean Paulhan, il se peut qu'en un temps voué à la mesure technique et comme dévoré de quantité, le peintre cubiste célèbre à sa manière, dans un espace accordé moins à notre intelligence qu'à notre cœur, quelques sourdes noces et réconciliations du monde avec l'homme. Après la science et la peinture, la philosophie, elle aussi, et surtout la psychologie, semble s'aviser que nos rapports avec l'espace ne sont pas ceux d'un pur sujet désincarné avec un objet lointain, mais ceux d'un habitant de l'espace avec son milieu familier. Soit par exemple à comprendre cette fameuse illusion d'optique, étudiée déjà par Malebranche, et qui fait que la Lune à son lever, quand elle est encore à l'horizon, nous paraît beaucoup plus grosse que lorsqu'elle atteint le zénith. Malebranche supposait ici que la perception humaine, par une sorte de raisonnement, surestime la grandeur de l'astre. Si en effet nous le regardons à travers un tube de carton ou une boîte d'allumettes, l'illusion disparaît. Elle est donc due à ce que, à son lever, la Lune se présente à nous par-delà les champs, les murs, les arbres, que ce grand nombre d'objets interposés nous rend sensible sa grande distance, d'où nous concluons que, pour garder la grandeur apparente qu'elle garde étant cependant si éloignée, il faut que la Lune soit très grande. Le sujet qui perçoit serait ici comparable au savant qui juge, estime, conclut, et la grandeur perçue serait en réalité jugée. Ce n'est pas ainsi que la plupart des psychologues d'aujourd'hui comprennent l'illusion de la Lune à l'horizon. Ils ont découvert par des expériences systématiques que c'est une propriété générale de notre champ de perception de comporter une remarquable constance des grandeurs apparentes dans le plan horizontal, alors qu'au contraire, elle diminue très vite avec la distance dans un plan vertical. Et cela sans doute, parce que le plan horizontal, pour nous, être terrestre, est celui où se font les déplacements vitaux, où se joue notre activité. Ainsi, ce que Malebranche interprétait par l'activité d'une pure intelligence, les psychologues de cette école le rapportent à une propriété naturelle de notre champ de perception, à nous, êtres incarnés et astreints à se mouvoir sur la Terre. En psychologie, comme en géométrie, à l'idée d'un espace homogène offert tout entier à une intelligence sans corps, se substitue l'idée d'un espace hétérogène avec des directions privilégiées qui sont en rapport avec nos particularités corporelles et avec notre situation d'être jeté dans le monde. Nous rencontrons ici pour la première fois cette idée que l'homme n'est pas un esprit et un corps, mais un esprit avec un corps, et qui n'accède à la vérité des choses que parce que son corps est comme fiché en elle. Si, après avoir examiné l'espace, nous considérons les choses qui le remplissent, et si nous interrogeons là-dessus un manuel classique de psychologie, il nous dira que la chose est un système de qualités offertes aux différents sens et réunies par un acte de synthèse intellectuelle. Par exemple, le citron est cette forme ovale renflée aux deux bouts, plus cette couleur jaune, plus ce contact frais, plus cette saveur acide, etc. Cependant, cette analyse nous laisse insatisfaits, parce que nous ne voyons pas ce qui unit chacune de ces qualités ou propriétés aux autres, et qu'il nous semble cependant que le citron possède l'unité d'un être dont toutes les qualités ne sont que différentes manifestations. L'unité de la chose demeure mystérieuse, tant qu'on considère ces différentes qualités comme autant de données qui appartiennent au monde rigoureusement distinct de la vue, de l'odorat, du toucher, etc. Mais justement, la psychologie moderne, suivant en cela les indications de Goethe, a fait observer que chacune de ces qualités, loin d'être rigoureusement isolée, possède une signification affective qui la met en correspondance avec celle des autres sens. Par exemple, comme le savent bien tous ceux qui ont eu à choisir des tapisseries pour un appartement, chaque couleur dégage une sorte d'atmosphère morale qui la rend triste ou gaie, déprimante ou tonique. Et comme il en va de même pour les sons ou les données tactiles, on peut dire que chacune équivaut à un certain son ou à une certaine température. Et c'est ce qui fait que les aveugles, quand on leur décrit des couleurs, parviennent à se les représenter par l'analogie d'un son, par exemple. À condition donc qu'on replace la qualité dans l'expérience humaine qui lui confère une certaine signification émotionnelle, son rapport à d'autres qualités qui n'ont avec elle rien de commun commence à devenir compréhensible. Il y a même des qualités très nombreuses dans notre expérience qui n'ont presque aucun sens si l'on met à part les réactions qu'elles suscitent de la part de notre corps. Ainsi, par exemple, du mielleux. Le miel est un fluide ralenti. Il a bien quelques consistances, il se laisse saisir, mais ensuite, sournoisement, il coule des doigts et revient à lui-même. Non seulement il se défait aussitôt qu'on l'a façonné, mais encore, renversant les rôles, c'est lui qui se saisit des mains de celui qui voulait le saisir. La main vivante, exploratrice, qui croyait dominer l'objet, se trouve attirée par lui et engluée dans l'être extérieur. En un sens, écrit Sartre, c'est comme une docilité suprême du possédé, une fidélité de chien qui se donne même quand on ne veut plus de lui. Et en un autre sens, c'est sous cette docilité une sournoise appropriation du possédant par le possédé. Une qualité comme le mielleux, et c'est ce qui la rend capable de symboliser toute une conduite humaine, ne se comprend que par le débat qu'elle établit entre moi comme sujet incarné et l'objet extérieur qui en est le porteur. Il n'y a de cette qualité qu'une définition humaine. Mais ainsi considérée, chaque qualité s'ouvre sur les qualités des autres sens. Le miel est sucré. Or, le sucré, comme dit Sartre, douceur indélébile qui demeure indéfiniment dans la bouche et survit à la déglutition, le sucré est dans l'ordre des saveurs cette même présence poisseuse que le visqueux réalise dans l'ordre du toucher. Dire que le miel est visqueux et dire qu'il est sucré sont deux manières de dire la même chose, à savoir un certain rapport de la chose à nous, ou une certaine conduite qu'elle nous suggère ou nous impose, une certaine manière qu'elle a de séduire, d'attirer, de fasciner le libre sujet qui se trouve confronté avec elle. Le miel est un certain comportement du monde envers mon corps et moi. Et c'est ce qui fait que les différentes qualités qu'il possède ne sont pas simplement juxtaposées en lui, mais au contraire, identiques en tant qu'elles manifestent toutes la même manière d'être ou de se conduire dans le miel. L'unité de la chose n'est pas derrière chacune de ces qualités, elle est réaffirmée par chacune d'elles, chacune d'elles est la chose entière. Cézanne disait qu'on doit pouvoir peindre l'odeur des arbres. Dans le même sens, Sartre écrit dans L'être et le néant que chaque qualité est révélatrice de l'être de l'objet. Le jaune du citron, poursuit-il, est étendu tout à travers ses qualités, et chacune de ses qualités est étendue tout à travers chacune des autres. C'est l'acidité du citron qui est jaune, c'est le jaune du citron qui est acide. On mange la couleur d'un gâteau, et le goût de ce gâteau est ce qui dévoile sa forme et sa couleur à ce que nous appellerions l'intuition alimentaire. La fluidité, la tiédeur, la couleur bleuâtre, la mobilité onduleuse de l'eau d'une piscine sont données d'un coup au travers les unes des autres. Les choses ne sont donc pas devant nous de simples objets neutres que nous contemplerions. Chacune d'elles symbolise pour nous une certaine conduite, nous la rappelle, provoque de notre part des réactions favorables ou défavorables. Et c'est pourquoi les goûts d'un homme, son caractère, l'attitude qu'il a prise à l'égard du monde et de l'être extérieur, se lisent dans les objets dont il choisit de s'entourer, dans les couleurs qu'il préfère, dans les lieux de promenade qu'il choisit. Claudel dit dans Connaissance de l'Est que les Chinois construisent des jardins de pierre où tout est rigoureusement sec et dénudé. Dans cette minéralisation de l'entourage, il faut lire un refus de la moiteur vitale et comme une préférence de la mort. Les objets qui hantent nos rêves sont de la même manière significatifs. Notre rapport avec les choses n'est pas un rapport distant. Chacune d'elles parle à notre corps et à notre vie. Elles sont revêtues de caractères humains, on dit qu'elles sont dociles, douces, hostiles ou résistantes, et inversement, elles vivent en nous comme autant d'emblèmes des conduites que nous aimons ou détestons. L'homme est investi dans les choses et les choses sont investies en lui. Pour parler comme le psychanalyste, les choses sont des complexes. C'est ce que voulait dire Cézanne quand il parlait d'un certain halo des choses qu'il s'agit de rendre par la peinture. L'essence de l'eau, par exemple, et de tous les éléments, se trouve moins dans leurs propriétés observables que dans ce qu'ils nous disent à nous. C'est donc une tendance assez générale de notre temps de reconnaître entre l'homme et les choses, non plus ce rapport de distance et de domination qui existe entre l'esprit souverain et le morceau de cire dans la célèbre analyse de Descartes, mais un rapport moins clair, une proximité vertigineuse qui nous empêche de nous saisir comme pur esprit à part des choses ou de définir les choses comme purs objets et sans aucun attribut humain. Il est bien connu que la pensée classique ne fait pas grand cas de l'animal, de l'enfant, du primitif, ni du fou. On se rappelle que Descartes ne voyait rien de plus dans un animal qu'une somme de roues, de leviers, de ressorts, qu'une machine enfin. Quand l'animal n'était pas une machine, il était, dans la pensée classique, une ébauche d'homme, et beaucoup d'entomologistes n'ont pas craint de projeter en lui les traits principaux de la vie humaine. La connaissance des enfants et des malades est restée longtemps rudimentaire en raison des mêmes préjugés. Les questions que le médecin ou l'expérimentateur leur posait étaient des questions d'hommes sains ou d'adultes. On cherchait moins à comprendre comment ils vivent pour leur compte qu'à mesurer la distance qui les sépare de l'adulte ou de l'homme sain dans leurs performances ordinaires. Quant aux primitifs, ou bien on cherchait en eux une image embellie du civilisé, ou au contraire, comme Voltaire dans l'Essai sur les mœurs, on ne trouvait dans leurs coutumes ou dans leurs croyances qu'une suite d'absurdités inexplicables. Tout se passe en somme comme si la pensée classique s'était tenue dans un dilemme. Ou bien l'être auquel nous avons affaire est assimilable à un homme, et il est alors permis de lui attribuer par analogie les caractères généralement reconnus à l'homme adulte et sain. Ou bien il n'est rien qu'une mécanique aveugle ou un chaos vivant, et il n'y a alors aucun moyen de trouver un sens à sa conduite. C'est que la pensée classique est persuadée qu'il y a un homme accompli, voué à être maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes, capable donc par principe de pénétrer jusqu'à l'être des choses, de déchiffrer tous les phénomènes, et non seulement ceux de la nature physique, mais encore ceux que nous montrent l'histoire et la société humaine, de les expliquer par leurs causes, et enfin de trouver dans quelque cause corporelle ou sociale la raison des anomalies qui tiennent l'enfant, le primitif, le fou, l'animal à l'écart de la vérité. Il y a pour la pensée classique une raison de droit divin. Soit qu'en effet, elle conçoive la raison humaine comme le reflet d'une raison créatrice, soit que, même après avoir renoncé à toute théologie, elle en recueille sans le dire l'héritage et postule un accord de principe entre la raison des hommes et l'être des choses. Dans une telle perspective, les anomalies dont nous parlons ne peuvent avoir que la valeur de curiosité psychologique auquel on fait avec condescendance une place dans un coin de la psychologie et de la sociologie normale. Mais c'est justement cette conviction, ou plutôt ce dogmatisme, qu'une science et une réflexion plus mûre remettent en question. Il est bien sûr que ni le monde de l'enfant, ni celui du primitif, ni celui du malade, ni à plus forte raison celui de l'animal, autant que nous puissions le reconstituer à travers sa conduite, ne constituent des systèmes cohérents, et qu'au contraire, celui de l'homme sain, adulte et civilisé s'efforce vers cette cohérence. Mais le point essentiel est qu'il ne la possède pas, qu'elle demeure une idée ou une limite jamais atteinte en fait, et qu'en conséquence, il ne peut pas se fermer sur soi. Le normal doit se soucier de comprendre des anomalies dont il n'est jamais tout à fait exempt. Il est invité à s'examiner sans complaisance, à redécouvrir en lui-même toutes sortes de fantasmes, de rêveries, de conduites magiques, de phénomènes obscurs, qui demeurent tout puissants dans sa vie privée et publique, dans ses rapports avec les autres hommes, qui laissent même, dans sa connaissance de la nature, toutes sortes de lacunes par lesquelles s'insinue la poésie. La pensée adulte, normale et civilisée vaut mieux que la pensée enfantine, moderne condition, c'est qu'elle ne se prenne pas pour pensée de droit divin, qu'elle se mesure toujours plus honnêtement aux obscurités et aux difficultés de la vie humaine, qu'elle ne perde pas le contact avec les racines irrationnelles de cette vie, et qu'enfin la raison reconnaisse que son monde aussi est inachevé, ne fait avoir dépassé ce qu'elle s'est bornée à masquer, et ne prenne pas pour incontestable une civilisation et une connaissance que sa fonction la plus propre est au contraire de discuter et de contester. Dans cet esprit, l'art et la pensée moderne reconsidèrent avec un intérêt renouvelé les formes d'existence les plus éloignées de nous, parce qu'elle révèle mieux le mouvement par lequel tous les vivants, et nous-mêmes, essayons de mettre en forme un monde qui n'est pas prédestiné aux entreprises de notre connaissance et de notre action. Alors que le rationalisme classique ne voyait aucun milieu entre la matière et l'intelligence, et mettait les êtres vivants, s'ils ne sont pas intelligents, au rang de simples machines, la notion même de vie au rang des idées confuses. Les psychologues d'aujourd'hui nous montrent au contraire qu'il y a une perception de la vie dont ils essayent de décrire les modalités. Ainsi, le monde dans lequel nous vivons n'est pas fait seulement de choses et d'espace. Certains de ces fragments de matière que nous appelons des vivants se mettent à dessiner dans leur entourage et par leurs gestes ou leurs comportements une vue des choses qui est la leur et qui nous apparaîtra si seulement nous nous prêtons au spectacle de l'animalité, au lieu de lui refuser témérairement toute espèce d'infériorité. Dans des expériences déjà vieilles de 20 ans, le psychologue allemand Köhler essayait de retracer la structure de l'univers des chimpanzés. Il faisait justement remarquer que l'originalité de la vie animale ne peut pas apparaître tant qu'on lui pose, comme c'était le cas dans l'expérience classique, des problèmes qui ne sont pas les siens. La conduite du chien peut paraître absurde et machinale tant que le problème à résoudre pour lui est de faire fonctionner une serrure ou d'agir sur un levier, c'est-à-dire d'utiliser des instruments humains. Cela ne veut pas dire que, considéré dans sa vie spontanée et en face des questions qu'elle se pose, l'animal ne traite pas son entourage selon les lois d'une sorte de physique naïve, qu'il ne saisisse pas certains rapports et ne les utilise pas pour parvenir à certains résultats, enfin qu'il n'élabore pas les influences du milieu d'une manière caractéristique de l'espèce. Donc, l'animal est le centre d'une sorte de mise en forme du monde. Il a un comportement. Dans les tâtonnements d'une conduite peu sûre et peu capable, à vrai dire, d'acquisitions accumulées, il révèle en pleine lumière l'effort d'une existence jetée dans un monde dont elle n'a pas la clé. C'est sans doute parce qu'elle nous rappelle ainsi nos échecs et nos limites que la vie animale joue un rôle immense dans les mythes des primitifs comme dans les rêveries de notre vie cachée. L'animal nous donne cette surprise et ce choc, lui qui n'entre pas dans le monde humain et se contente de le subir, de nous montrer cependant des emblèmes de notre vie qui, ramenés ainsi au cœur de la nature originelle, perd du coup son évidence et sa suffisance. Freud a montré que la mythologie animale est recréée dans chaque jeune enfant à chaque génération, que l'enfant se voit ses parents et les conflits où il est engagé avec eux, dans les animaux qu'il rencontre, au point que le cheval devient dans les rêves du petit Hans une puissance maléfique aussi incontestable que les animaux sacrés des primitifs. Même un poète comme Claudel, qui, en tant que chrétien, pourrait être exposé à sous-estimer tout ce qui n'est pas l'homme, retrouve l'inspiration du livre de Job et demande qu'on interroge. Il y a, écrit-il, une estampe japonaise qui représente un éléphant entouré par des aveugles. C'est une commission, n'est-ce pas, qu'on a déléguée pour identifier cette intervention monumentale au travers de nos affaires humaines. Le premier a enlacé une des pattes et dit « c'est un arbre ». C'est vrai, dit le second, qui a découvert les oreilles, et voici les feuilles. Point du tout, dit le troisième, qui promène sa main sur le flanc, c'est un mur. C'est une ficelle, s'écrie le quatrième, qui a saisi la queue. C'est un tuyau, réplique le cinquième, qui a affaire à la trompe. Ainsi, poursuit Claudel, notre mère, la Sainte Église catholique, qui, de l'animal sacré, possède la masse, la démarche et le tempérament débonnaire, sans parler de cette double défense de pur ivoire qui lui sort de la bouche. Je la vois, les quatre pieds dans ces eaux qui lui arrivent directement du paradis, qui, de la trompe, y puise pour en baptiser copieusement tout son énorme corps. On aime à imaginer Descartes ou Malebranche lisant ce texte de Claudel et retrouvant les animaux dont il faisait des mécaniques chargés de porter les emblèmes de l'humain et du surhumain. Nous avons jusqu'ici essayé de regarder l'espace, les choses et les vivants qui habitent ce monde par les yeux de la perception, en oubliant ce qu'une trop longue familiarité avec eux nous fait trouver tout naturel, en les prenant tels qu'ils s'offrent à une expérience naïve. C'est maintenant, à l'égard de l'homme lui-même, qu'il faudrait recommencer la même tentative. On a certes, depuis 30 siècles et plus, dit sur l'homme beaucoup de choses, mais c'était souvent par réflexion qu'on les avait trouvées. Descartes, par exemple, détourne de l'extérieur et ne parvient à se définir clairement qu'en découvrant en lui-même un esprit, c'est-à-dire un genre d'être qui n'occupe aucun espace, qui ne se répand pas dans les choses et n'est rien d'autre que la pure connaissance de lui-même. On parvenait ainsi à une notion pure de l'esprit et à une notion pure de la matière ou des choses. Mais il est clair que cet esprit tout pur, je ne le trouve et pour ainsi dire ne le touche qu'en moi-même. Les autres hommes ne sont jamais pour moi pur esprit. Je ne les connais qu'à travers leurs regards, leurs gestes, leurs paroles, en un mot à travers leur corps. Je ne saurais dissocier quelqu'un de sa silhouette, de son ton, de son accent. À considérer l'homme du dehors, c'est-à-dire en autrui et tel que la perception me le donne, il est probable que je vais être amené à réexaminer certaines distinctions tant par l'esprit et du corps. Nous supposons que je sois en présence de quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, est violemment irrité contre moi. Mon interlocuteur se met en colère, et je dis qu'il exprime sa colère par des paroles violentes, des gestes, des cris. Mais où donc est cette colère? On me répondra, elle est dans l'esprit de mon interlocuteur. Ce n'est pas très clair, car enfin, cette méchanceté, cette cruauté que je lis dans les regards de mon adversaire, je ne puis les imaginer séparés de ses gestes, de ses paroles, de son corps. Tout cela ne se passe pas hors du monde et comme dans un sanctuaire reculé derrière le corps de l'homme en colère. C'est bel et bien ici, dans cette pièce et en ce lieu de la pièce, que la colère éclate. C'est dans l'espace entre lui et moi qu'elle se déploie. La colère habite ce visage. Elle affleure à la surface de ses joues pâles ou violettes, de ses yeux injectés de sang, de cette voix sifflante. Et si, pour un instant, je quitte mon point de vue d'observateur extérieur sur la colère, si je tente de me rappeler comment elle m'apparaît à moi-même lorsque je suis en colère, je suis obligé d'avouer qu'il n'en va pas autrement. La réflexion sur ma propre colère ne me montre rien qui soit séparable ou qui puisse, pour ainsi dire, être décollé de mon corps. Quand je me rappelle ma colère contre Paul, je la trouve non pas dans mon esprit ou dans ma pensée, mais tout entière, entre moi qui vociférais et ce détestable Paul qui était tranquillement assis là et m'écoutait avec ironie. Ma colère, ce n'était rien d'autre qu'une tentative de destruction de Paul, demeurée verbale si je suis pacifique, et même demeurée courtoise si je suis poli, mais enfin, elle se passait dans l'espace commun, où nous échangions des arguments à défaut de coups, et non pas en moi. C'est seulement ensuite, réfléchissant sur ce que c'est que la colère, et remarquant qu'elle renferme une certaine évaluation négative d'autrui, que j'ai conclu, après tout, la colère est une pensée. Être en colère, c'est penser qu'autrui est détestable, et cette pensée, comme toutes les autres, ainsi que l'a montré Descartes, ne peut résider en aucun fragment de matière. Elle est donc de l'esprit. J'ai beau réfléchir ainsi, dès que je me retourne vers l'expérience même de la colère qui motive ma réflexion, je dois avouer qu'elle n'était pas hors de mon corps, qu'elle ne l'animait pas du dehors, mais qu'elle était inexplicablement avec lui. Descartes même, qui avait rigoureusement distingué l'esprit du corps, a dit aussi que l'âme n'était pas seulement comme le pilote en son navire, le chef et le commandement du corps, mais plutôt qu'elle lui était très étroitement unie, tellement qu'elle souffre en lui, comme on le voit bien quand nous disons que nous avons mal aux dents. Seulement, cette union de l'âme et du corps, si l'on peut la vivre, on ne peut guère en parler. Et, quoi qu'il en soit de notre condition de fait, même si en fait nous vivons un véritable mélange de l'esprit avec le corps, cela ne nous enlève pas, selon Descartes, le droit de distinguer absolument ce qui est uni dans notre expérience, de maintenir, en principe, la séparation radicale de l'esprit et du corps qui est niée par le fait de leur union. Les successeurs de Descartes devaient justement mettre en doute qu'on puisse ainsi placer à part ce qui est en fait et ce qui est en principe. Ils ont dénoncé cette sorte de compromis. Décrivant donc notre condition de fait, les psychologues d'à présent insistent sur ceci. Que nous ne vivons pas d'abord dans la conscience de nous-mêmes, mais dans l'expérience d'autrui. Jamais nous ne nous sentons exister qu'après avoir déjà pris contact avec les autres. Et notre réflexion est toujours un retour à nous-mêmes, qui doit d'ailleurs beaucoup à notre fréquentation d'autrui. Un nourrisson de quelques mois est déjà fort habile à distinguer la bienveillance, la colère, la peur sur le visage d'autrui, à un moment où il ne saurait avoir appris par l'examen de son propre corps les signes physiques de ses émotions. C'est donc que le corps d'autrui, dans ses diverses gesticulations, lui apparaît investi d'emblée d'une signification émotionnelle. C'est donc qu'il apprend à connaître l'esprit tout autant comme comportement visible que dans l'intimité de son propre esprit. Et l'adulte, à son tour, découvre dans sa propre vie ce que sa culture, l'enseignement, les livres, la tradition lui ont appris à y voir. Le contact de nous-mêmes avec nous-mêmes se fait toujours à travers une culture, au moins à travers un langage que nous avons reçu du dehors. Si bien qu'enfin, le pur soi, l'esprit sans corps, sans instrument et sans histoire, s'il est bien comme une instance critique que nous opposons à la pure et simple intrusion des idées qui nous sont suggérées par le milieu, ne s'accomplit que par l'instrument du langage et en participant à la vie du monde. Il résulte de là une image de l'homme et de l'humanité qui est bien différente de celle d'où nous sommes partis. L'humanité n'est pas une somme d'individus, une communauté de penseurs dont chacun, dans sa solitude, soit assuré d'avance de s'entendre avec les autres parce qu'ils participeraient tous de la même essence pensante. Elle n'est pas davantage, bien entendu, un grand être où la pluralité des individus serait fondue et destinée à se résorber. Elle est par principe en porte-à-faux. Chacun ne peut croire qu'à ce qu'il reconnaît pour vrai intérieurement. Et en même temps, chacun ne pense et ne se décide que déjà pris dans des rapports avec autrui qui l'orientent de préférence vers telle espèce d'opinion. Chacun est seul et personne ne peut se passer des autres, non seulement pour son utilité qui n'est pas ici en cause, mais pour son bonheur. Il n'y a pas de vie à plusieurs qui nous délivre de la charge de nous-mêmes et nous dispense d'avoir un avis. Et il n'y a pas de vie intérieure qui ne soit comme un premier essai de nos relations avec autrui. Dans cette situation ambiguë, où nous sommes jetés parce que nous avons un corps et une histoire personnelle et collective, nous ne pouvons trouver de repos absolu. Il nous faut sans cesse travailler à réduire nos divergences, à expliquer nos paroles mal comprises, à manifester ce qui de nous est caché, à percevoir autrui. La raison et l'accord des esprits ne sont pas derrière nous, ils sont présomptivement devant nous, et nous sommes aussi incapables d'y renoncer que de les posséder jamais à titre définitif. Chez Cézanne, chez Juan Gris, chez Braque, chez Picasso, de différentes manières, on rencontre des objets, citron, mandoline, grappe de raisin, paquet de tabac, qui ne glissent pas sous le regard à titre d'objet bien connu, mais qui au contraire l'arrêtent, l'interrogent, lui communiquent bizarrement leur substance secrète, le mode même de leur matérialité, et pour ainsi dire, saignent devant nous. Ainsi, la peinture nous reconduisait à la vision des choses mêmes. Inversement, et comme par un échange de services, une philosophie de la perception qui veut réapprendre à voir le monde restituera à la peinture et en général aux arts leur vraie place, leur vraie dignité. Qu'avons-nous appris en effet à considérer le monde de la perception? Nous avons appris que dans ce monde, il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître. Quand je définis une table, comme le fait le dictionnaire, plateau horizontal soutenu par trois ou quatre supports et sur lequel on peut manger, écrire, etc. J'ai le sentiment d'atteindre l'essence de la table et je me désintéresse de tous les accidents dont elle peut s'accompagner, forme des pieds, style des moulures, etc. Mais ce n'est pas là percevoir, c'est définir. Quand au contraire je perçois une table, je ne me désintéresse pas de la manière dont elle accomplit sa fonction de table. Et c'est la façon chaque fois singulière dont elle porte son tableau, ou son plateau, veux-je dire. C'est le mouvement unique, depuis les pieds jusqu'au plateau qu'elle oppose à la pesanteur, voilà ce qui m'intéresse et qui fait chaque table distincte de toutes les autres. Il n'y a pas de détails ici, fibre du bois, forme des pieds, couleur même et âge de ce bois, graffiti ou écorchure qui marque cet âge, rien qui soit insignifiant. Et la signification table ne m'intéresse qu'autant qu'elle émerge de tous les détails qui l'incarnent. Or, si je me mets à l'école de la perception, je me trouve prêt à comprendre l'œuvre d'art, car elle est, elle aussi, une totalité charnelle, où la signification n'est pas libre, pour ainsi dire, mais liée, captive de tous les signes, de tous les détails qui me la manifestent. De sorte que, comme la chose perçue, l'œuvre d'art se voit ou s'entend, et qu'aucune définition, aucune analyse, si précieuse qu'elle puisse être après coup à titre d'inventaire, ne saurait remplacer l'expérience perceptive et directe que j'en prends. Cela n'est pas si évident d'abord, car enfin, la plupart du temps, un tableau représente, comme on dit, des objets. Souvent, un portrait représente quelqu'un dont le peintre nous donne le nom. Après tout, pourrait-on dire, la peinture n'est-elle pas comparable à ces flèches indicatrices dans les gares qui n'ont d'autre fonction que de nous diriger vers la sortie ou vers le quai ? Ou encore à ces photographies exactes qui nous permettent d'examiner l'objet en son absence et en retiennent tout l'essentiel. Si c'était vrai, le but de la peinture serait le trompe-l'œil, et sa signification serait tout hors du tableau, dans les choses qu'il représente, dans le sujet. Mais c'est précisément contre cette conception que toute peinture valable s'est constituée et que les peintres luttent très consciemment depuis 100 ans au moins. La peinture n'est pas une imitation du monde, mais un monde pour soi. Et cela veut dire que dans l'expérience d'un tableau, il n'y a aucun renvoi à la chose naturelle. Dans l'expérience esthétique du portrait, aucune mention de sa ressemblance au modèle réel. Ceux qui commandent des portraits les veulent souvent ressemblants, mais c'est qu'ils ont plus de gloriole que d'amour de la peinture. Même quand ils travaillent sur des objets réels, le but du peintre n'est jamais d'évoquer l'objet même, mais de fabriquer sur la toile un spectacle qui se suffit. La distinction souvent faite entre le sujet du tableau et la manière du peintre n'est pas légitime, parce que, pour l'artiste, tout le sujet est dans la manière dont le raisin, la pipe ou le paquet de tabac sont constitués par le peintre sur la toile. Voulons-nous dire qu'en art, la forme seule importe et non ce qu'on dit? Nullement. Nous voulons dire que la forme et le fond, ce qu'on dit et la manière dont on le dit, ne sauraient exister à part. Nous nous bornons en somme à constater cette évidence, que si je peux me représenter d'une manière suffisante, au moins dans ses traits généraux, d'après sa fonction, un objet ou un outil que je n'ai jamais vu, par contre, les meilleures analyses ne peuvent me donner le soupçon de ce qu'est une peinture dont je n'ai jamais vu aucun exemplaire. Il ne s'agit donc pas, en présence d'un tableau, de multiplier les références au sujet, à la circonstance historique s'il en est une qui est à l'origine du tableau. Il s'agit, comme dans la perception des choses mêmes, de contempler, de percevoir le tableau, selon les indications muettes de toutes parts que me donnent les traces de peinture déposées sur la toile, jusqu'à ce que toutes, sans discours et sans raisonnement, se composent en une organisation stricte, où l'on sent bien que rien n'est arbitraire, même si l'on est hors d'état d'en rendre raison. Le cinéma n'a pas encore produit beaucoup d'ouvrages qui soient de part en part œuvres d'art. L'engouement pour les vedettes, le sensationnel des changements de plan ou des péripéties, l'intervention des belles photographies ou celle d'un dialogue spirituel sont pour le film autant de tentations où il risque de s'engluer. Il trouve alors le succès en omettant les moyens d'expression les plus propres au cinéma. Malgré toutes ces circonstances qui font qu'on n'a guère vu jusqu'ici de film qui soit pleinement film, on peut entrevoir ce que serait un tel ouvrage, et l'on va voir que comme toute œuvre d'art, il serait encore quelque chose que l'on perçoit. Car ce qui peut constituer la beauté cinématographique, ce n'est ni l'histoire en elle-même, que la prose raconterait très bien, ni à plus forte raison les idées qu'elle peut suggérer, ni enfin ces tics, ces manies, ces procédés par lesquels un metteur en scène se fait reconnaître, et qui n'ont pas plus d'importance décisive que les mots favoris d'un écrivain. Ce qui compte, c'est le choix des épisodes représentés, et, dans chacun d'eux, le choix des vues que l'on fera figurer dans le film, la longueur donnée respectivement à chacun de ces éléments, l'ordre dans lequel on choisit de les présenter, le son ou les paroles dont on décide ou non de les accompagner, tout cela constituant un certain rythme cinématographique global. La musique nous fournirait un exemple trop facile, et auquel pour cette raison même nous ne voulons pas nous arrêter. Impossible ici, de toute évidence, d'imaginer que l'art renvoie à autre chose que lui-même. La musique à programme, qui nous décrit un orage ou même une tristesse, est l'exception. Ici, nous sommes incontestablement en présence d'un art qui ne parle pas. Et cependant, il s'en faut bien qu'une musique ne soit qu'un agrégat de sensations sonores. À travers les sons, nous voyons apparaître une phrase, et de phrase en phrase un ensemble, et enfin, comme disait Proust, le monde d'un musicien, qui est lui-même, dans le grand monde de la musique possible, la région de Bussy ou le royaume Bach. Rien à faire ici que d'écouter, sans retour sur nous-mêmes, nos souvenirs, nos sentiments, comme la perception regarde les choses mêmes sans y mêler nos rêves. On peut enfin dire quelque chose d'analogue de la littérature, quoique cela ait été souvent contesté, parce que la littérature emploie les mots qui sont aussi faits pour signifier les choses naturelles. Il y a longtemps déjà que Mallarmé a distingué l'usage poétique du langage du bavardage quotidien. Le bavard ne nomme les choses que juste assez pour les indiquer brièvement, pour signifier de quoi il s'agit. Au contraire, le poète, selon Mallarmé, remplace la désignation commune des choses, qui les donne comme bien connues, par un genre d'expression qui nous décrit la structure essentielle de la chose sans nous donner son nom, et nous force ainsi à entrer en elle. On trouve chez Mallarmé la conscience la plus nette de la poésie, comme entièrement portée par le langage, sans référence directe au monde même, ni à la vérité prosaïque, ni à la raison, par conséquent comme une création de la parole qui ne saurait être complètement traduite en idée. Et comme la poésie, ainsi que le diront plus tard Henri Brémond et Valéry, n'est pas d'abord significative d'idées ou signifiante, Mallarmé et plus tard Valéry refusent d'approuver ou de désapprouver tout commentaire prosaïque de leur poème. Dans le poème, comme dans une chose perçue, on ne peut séparer le fond et la forme, ce qui est présenté et la manière dont il se présente au regard. L'homme et le monde sont comme des ouvrages sans conclusion et dont on ne sait pas s'ils en comporteront jamais une. Si l'ambiguïté et l'inachèvement sont écrits dans la texture même de notre vie collective et non pas seulement dans les ouvrages des intellectuels, il serait dérisoire de vouloir y répondre par une restauration de la raison, au sens où l'on parle de restauration à propos du régime de 1815. Nous pouvons et nous devons analyser les ambiguïtés de notre temps et tâcher, à travers elles, de tracer un chemin qui puisse être tenu en conscience et en vérité. Quand on nous parle de l'œuvre classique comme d'une œuvre achevée, nous devons nous rappeler que Léonard de Vinci et beaucoup d'autres laissaient des ouvrages inachevés, que Balzac tenait pour indiscernable le fameux point de maturité de l'œuvre classique, que Cézanne, qui considérait sa peinture entière comme une approximation de ce qu'il cherchait, nous donne cependant plus d'une fois le sentiment de l'achèvement ou de la perfection. C'est peut-être par une illusion rétrospective, parce que l'œuvre est trop loin de nous, trop différente de nous pour que nous soyons capables de la reprendre et de la poursuivre, que nous trouvons à certaines peintures un air définitif. Les peintres qui les ont faites n'y voyaient qu'essai ou échec.